froid. Le bon sens et l'exemple, deux armes trop efficaces? Parmi le nombre presque illimité d'arguments disponibles, il en est deux sur lesquels nous devons nous arrêter un peu plus longuement, l'argument de communauté par le bon sens et l'argument de cadrage par l'exemple. Ils ont en commun de puiser dans la force implacable de l'évidence, d'où ils tirent le pouvoir de s'imposer à la conscience d'auditoire très large, alors même qu'ils reposent généralement sur des fondements logiques discutables. Pour le dire autrement, le bon sens et l'exemple sont très souvent efficaces, tout en étant presque jamais rigoureux. Ils méritent donc qu'on s'y arrête un instant. L'argument par le bon sens. L'argument par le bon sens consiste à mobiliser à son profit les évidences, en s'appuyant sur les constats les plus immédiats et les raisonnements les plus intuitifs. Il ne bouscule donc en rien les perceptions initiales des auditeurs. Au contraire, il conforte ceux-ci dans leurs idées reçues, leurs préjugés, leurs partis pris, et étouffe, ce faisant, tout recours à leurs facultés critiques. Car enfin, pourquoi s'embêter à remettre en question ce qui va de soi? À quoi bon perdre son temps à discuter de ce qui est hors de doute? Cessons de tergiverser. Si une chose s'impose à nous comme évidente, c'est qu'elle est vraie. Si elle nous semble normale, c'est qu'elle est juste. Et si elle nous paraît naturelle, c'est qu'elle est bonne. Et surtout, surtout, ne réfléchissons pas trop. S'imposant à l'esprit des auditeurs, sans y déranger la moindre idée préconçue, tout en y apposant sa marque de manière indélébile, le bon sens conjugue donc efficacité massive et rigueur approximative. Si nous nous sommes attelés, siècle après siècle, à développer une méthode scientifique rigoureuse, c'est justement parce que nous avons compris que nous ne pouvions nous fier à ce qui nous semblait aller de soi. La physique, la médecine, l'histoire, la sociologie, la philosophie sont précisément nés du besoin de déconstruire les évidences, pour bâtir des connaissances moins intuitives peut-être, mais mieux établies. En écoutant notre seul bon sens, sans doute croirions-nous encore que le soleil tourne autour d'une terre plate. Tel est en effet ce que nos perceptions immédiates nous donnent à constater. Prenons quelques exemples. Les masques chirurgicaux sont totalement inefficaces pour lutter contre une épidémie. Ah, si la fumée de cigarette passe à travers, vous imaginez bien que les virus passent aussi. Comment peut-on prétendre que le climat se réchauffe? Nous sommes en plein mois de mai et il fait 5 degrés. S'il y a des gens qui échouent à l'école, c'est de leur faute. Les examens et les concours sont les mêmes pour tout le monde. Ils n'avaient qu'à mieux travailler. Ces arguments pleins de bon sens se trouvent brutalement contredits par la médecine, la climatologie et la sociologie. Nous aurons toutefois besoin, pour les réfuter, d'en passer par de longs et complexes développements, alors qu'il suffit de quelques mots pour les formuler. Même l'évidence la plus grossière, précisément parce qu'elle semble aller de soi, ne saurait être balayée d'un revers de manche. Telle est la puissance de l'argument par le bon sens. Il impose à celui qui voudrait s'y opposer une désespérante asymétrie de moyens et soumet ceux auxquels il est destiné à une redoutable force de conviction. C'est d'ailleurs ce que l'on a appelé récemment la loi de Brandolini. La quantité de temps et d'énergie nécessaire pour dénoncer des idioties est très largement supérieure à celle nécessaire pour les énoncer. En tant qu'oratrice ou orateur, le bon sens nous ramène au dilemme éthique de la rhétorique. Argument souvent efficace, mais rarement rigoureux, c'est à nous et à nous seuls qu'il reviendra de décider si nous désirons l'utiliser, quitte à compromettre notre éthique personnelle. tout juste pouvons-nous ici formuler deux conseils de prudence. Le premier, c'est de prendre garde aux dangers que le bon sens fait peser sur notre entreprise de conviction. Que nos auditeurs le relèvent, ou pire, qu'un de nos adversaires le dévoile, et nous serons suspectés d'ignorance, voire de démagogie. Le second conseil, c'est, à l'inverse, de nous détourner autant que possible des argumentations contre-intuitives qui vont à l'encontre des évidences et du bon sens. Elles reviennent à nous mettre nous-mêmes en difficulté puisque, avant même de pouvoir présenter nos arguments, il nous faudra d'abord déconstruire méthodiquement les préconceptions de nos auditeurs. Il s'agit d'une situation dans laquelle nous ne devrions nous placer qu'en cas de nécessité et avec grande réticence, particulièrement s'il nous faut argumenter en un temps restreint ou devant un auditoire très large. En tant qu'auditrice ou auditeur, l'argument par le bon sens est un procédé auquel il faut prendre garde avec d'autant plus de soin qu'il a tendance à s'imposer à nous sans que nous en ayons conscience. Précisément parce qu'il se présente sous les atours de l'évidence, le risque est fort que nous ne pensions même pas à l'interroger et acceptions donc de nous laisser convaincre, sinon même contraindre par lui. Il nous faut donc apprendre à le repérer afin de pouvoir l'interroger avec toute l'attention qu'il exige. Heureusement, le bon sens est rarement discret. Il suffit de traquer dans les discours ou les interventions qui nous sont adressées les marqueurs de l'évidence. Ceux-ci sont de plusieurs ordres. Premièrement, les adverbes et les locutions adverbiales de la connivence, franchement, honnêtement, sincèrement, ainsi que on ne va pas se mentir, n'y allons pas par quatre chemins, appelons un chat. Bien sûr, ces éléments sont employés le plus souvent de manière anodine, mais ils peuvent également être utilisés afin de sous-entendre que mettre en doute ce qui s'apprête à être avancé, ce serait d'emblée se positionner contre la franchise, l'honnêteté ou la sincérité. En ce sens, ils agissent comme une puissante incitation à ne pas mettre en branle nos facultés de réflexion. Deuxièmement, l'appel au consensus. Tout le monde sait bien que, on ne peut nier que, chacun en conviendra. Ces éléments ont pour effet de conférer à un énoncé l'apparence d'un savoir unanimement accepté. Nul besoin de le mettre en question, tout le monde est déjà d'accord. Il s'agit d'une déclinaison d'un procédé plus vaste, l'argument ad populum, dont l'effet est justement de prévenir l'émergence de la contestation. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Enfin, l'utilisation de proverbes. En mobilisant une sagesse populaire établie depuis des temps immémoriaux, les proverbes constituent une invitation à relâcher notre vigilance. Pourquoi, en effet, nous embêterions-nous à interroger ce qui est accepté depuis si longtemps? Ils ne présentent pourtant, d'un point de vue logique, aucun gage de rigueur. Prenons un seul exemple. Il n'y a pas de fumée sans feu. Certes. En revanche, l'histoire déborde de rumeurs, de préjugés et d'accusations infondées. Donner du crédit à un proverbe revient ainsi à prendre pour acquis un argument n'ayant en rien été établi. Adverbe de la connivence, appel au consensus, sagesse proverbiale. Lorsque nous repérons de tels procédés dans un discours, mieux vaut nous méfier. Le bon sens rôde peut-être à proximité. L'argument par l'exemple. L'exemple est un outil rhétorique majeur. Il matérialise les arguments, les sort de l'abstraction pour leur conférer une représentation concrète. Encore faut-il prendre conscience de l'existence d'une distinction essentielle, celle qui oppose exemplification d'un argument d'une part et argumentation par l'exemple d'autre part. Exemplifier un argument, cela consiste à mettre en avant un cas particulier comme illustration d'une généralité. Il s'agit d'un détour indispensable dès lors qu'un de nos arguments nous semble trop théorique, trop surplombant, trop flou pour emporter l'adhésion des auditeurs. Plutôt que d'en rester à un haut niveau d'abstraction, nous utilisons donc un ou des exemples qui vont venir incarner notre énoncé général, le renforcer, lui donner corps et lui offrir l'opportunité, nous le verrons, de susciter des émotions. Argumenter par l'exemple, cela consiste à mettre en avant un cas particulier, non plus comme illustration, mais bien comme fondement d'une généralité. Au lieu de partir d'un argument auquel nous donnons vie par l'exemple, nous faisons exactement l'inverse. Nous commençons par un exemple spécifique à partir duquel nous décrétons une proposition générale. Le problème est qu'une telle construction sera, dans l'immense majorité des cas, hautement contestable. Comment démontrer en effet que notre exemple soit bien représentatif d'une réalité plus vaste que lui ? Comment garantir qu'il ne soit pas, au contraire, un cas isolé ? Entre le global et le particulier, le fait social et le fait divers, ce qui fait la différence, ce sont précisément les arguments que nous déployons. Ce n'est qu'en nous fondant sur des chiffres, des études, des témoignages, des normes juridiques, des traditions, des précédents, et la liste ne s'arrête pas là, que nous pouvons nous permettre d'opérer des montées en généralité. En l'absence de tout autre argument, l'exemple cesse de constituer une simple illustration pour devenir l'argument lui-même, dont la rigueur est, hélas, souvent médiocre. Étude de cas numéro 1. Le pays sort de 2 mois de confinement dû à la première vague de coronavirus. En tant que ministre de l'économie, je m'apprête à annoncer un effort financier considérable en faveur de l'hôpital public. Je sais que ces annonces vont provoquer un grand mécontentement dans les secteurs qui n'en bénéficient pas, la restauration et la culture notamment. Pour désamorcer cette colère, je commence ainsi mon discours. Nous avons décidé de faire un effort tout particulier en faveur des soignants. Ils ont payé de loin le plus lourd tribut. On estime en effet que 20% d'entre eux ont attrapé la maladie. C'est 6 fois plus que le reste de la population. Cet argument par le chiffre est rigoureux. Il me semble toutefois un peu trop théorique. J'ai peur qu'il ne suffise pas pour convaincre les autres travailleurs, qui estiment eux aussi avoir considérablement souffert. Pour gagner en efficacité, je décide donc d'illustrer mon argument par un exemple concret et véridique. Et je pense aujourd'hui à Inès, cette infirmière que j'ai rencontrée en visitant un hôpital. Quand d'autres étaient confinés chez eux, Inès était au chevet des malades, jour et nuit. Après 3 semaines de labeur, elle a fini elle aussi par contracter la maladie. Figurez-vous qu'elle n'a pas quitté le service de réanimation. Elle y est demeurée, non plus auprès des patients, mais en tant que patiente elle-même. Elle a survécu, heureusement. Je pense à elle et à toutes celles et tous ceux qui ont sacrifié leur santé, parfois leur vie, pour sauver les nôtres. Nous leur sommes redevables. Décryptage. Dans cet exemple, notre argumentation est rigoureuse. Nous commençons par avancer un argument suffisamment général pour nous permettre d'en déduire une proposition. Afin de lui conférer davantage d'efficacité, nous l'illustrons par un exemple. Celui-ci est certes un cas particulier, mais nous pouvons montrer, chiffres à l'appui, qu'il est représentatif d'une réalité plus vaste. Reste, il est vrai, la question du pathos. Ici, l'anecdote que nous rapportons ne manquera pas de toucher nos auditeurs. Or, mobiliser les émotions, n'est-ce pas justement l'inverse de la rigueur ? Il s'agit d'une question délicate, nous l'aborderons frontalement un peu plus loin. Mais il est important de noter que, pour ce qui nous intéresse ici, cela ne change rien. Ce qui pourrait être contestable, ce serait l'utilisation des émotions, pas l'argumentation elle-même. Étude de cas numéro 2. Je suis un polémiste invité régulièrement à débattre sur une chaîne d'information en continu. Lors d'une discussion particulièrement tendue, je lance « Laissez-moi vous rappeler un fait éloquent. Il y a quelques jours, dans un collège de banlieue, un élève a été tabassé par 6 autres. Son seul tort ? Avoir voulu prendre son goûter à la récré, comme tous les jours, sauf que, pour ces racailles, c'est un crime de manger pendant le ramadan. Combien de temps encore va-t-on se laisser faire ? Quand va-t-on enfin lutter contre cet islam radical qui entend régir la vie dans les quartiers ? » Quelques dizaines de minutes plus tard, dans l'effervescence du débat, je me retrouve à nouveau au front sur un tout autre sujet cette fois. « Bien sûr qu'il y a une fraude massive au chômage. J'en parlais encore tout à l'heure avec la maquilleuse. Son neveu travaille 6 mois tous les 6 mois et le reste de l'année touche les allocations et joue aux jeux vidéo. Mais enfin, sortez de la naïveté !» Décryptage. Il s'agit bien ici de 2 arguments par l'exemple. Nous nous sommes contentés d'aller chercher les histoires les plus marquantes possibles pour ensuite asséner nos opinions comme si elles étaient des vérités indiscutables. Cela ne signifie pas que ces opinions soient nécessairement infondées. Peut-être sont-elles solides et pourraient-elles être argumentées de manière rigoureuse. Mais, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. En dehors de l'exemple, on ne trouve pas trace du moindre argument. Rien dans ces extraits ne devrait justifier de se laisser convaincre. Du point de vue des oratrices et des orateurs, l'exemplification de nos arguments relève de la bonne pratique. C'est ainsi que nous donnons de la vie, de l'allant, du relief à des développements qui, sinon, auraient pu se révéler pénibles ou obscurs. En revanche, l'argumentation par l'exemple nous confronte, elle, à un dilemme éthique. Malgré son déficit de rigueur, elle n'en reste pas moins une option à la fois simple et virevoltante. Elle peut, dans certains contextes, se révéler terriblement efficace. Devrions-nous alors y céder ou, au contraire, nous en détourner avec mépris ? Cela relève à nouveau d'un choix strictement personnel. Notons toutefois que l'argument par l'exemple nous fait courir les mêmes risques que l'argument par le bon sens. Qu'il soit repéré ou révélé, et il pourrait bien se retourner contre nous. Du point de vue des auditrices et des auditeurs, il est essentiel que nous soyons capables de bien distinguer exemplification d'un argument et argumentation par l'exemple. Dans le premier cas, nous pouvons admettre le procédé comme légitime, tout en prenant garde à ce qu'il n'ait pas trop d'impact sur nos émotions. Dans le second cas, en revanche, nous devrions sur le champ exiger de l'orateur qu'il nous expose les arguments permettant de fonder une montée en généralité. S'il est incapable de les produire, il ne mérite probablement pas de nous convaincre. 4. Comprendre l'existence du désaccord. Il nous reste une question à envisager. Si les arguments présentent tous un degré de rigueur bien établi, pourquoi nous arrive-t-il alors d'être en désaccord ? Ne suffirait-il pas, pour chaque problème, d'identifier les arguments les plus rigoureux et de nous en tenir à la position qu'ils soutiennent ? N'y aurait-il pas ici l'opportunité de quitter la sphère embarrassante de l'argumentation pour revenir à la méthode rassurante de la démonstration dans laquelle un raisonnement irréfutable permet d'aboutir à une conclusion inéluctable. Bien sûr, ce n'est pas si simple. Si un problème auquel nous sommes confrontés nécessite d'avoir recours à l'argumentation pour être tranché, c'est précisément le signe qu'il est sous-tendu par un ensemble d'arguments tout à la fois rigoureux et incompatibles entre eux. Ce qui va décider de la position que chacun d'entre nous va adopter, c'est le poids respectif que nous choisissons de leur attribuer. Nous réussirons peut-être à établir une liste consensuelle des arguments pertinents. En revanche, nous nous déchirerons au moment de déterminer lesquels sont les plus importants. Tout se ramène au fond à 2 désaccords essentiels. Premièrement, nous ne hiérarchisons pas nos valeurs de la même manière. Bien sûr, il est probable que nous souscrivions tous plus ou moins au même corpus de valeurs fondamentales. Mais comment allons-nous les articuler entre elles? Qu'est-ce qui aura le plus d'importance à nos yeux? La liberté de chacun ou l'égalité de tous? La sauvegarde des traditions ou le besoin d'innovation? L'ouverture sur le monde ou la protection de la nation? Ce type de questions ne possède pas de bonnes réponses, seulement des réponses propres aux uns et aux autres. Deuxièmement, nous ne percevons pas le risque de la même manière. Il est souvent très difficile de s'accorder sur les probabilités qu'un événement se produise ou non. Quelles sont les chances qu'un krach boursier se produise, qu'un attentat ait lieu, qu'un pays déclare une guerre? Il est possible de les évaluer, bien sûr. Il est plus délicat de parvenir au consensus quant à cette évaluation. Et quand bien même nous l'atteindrions, encore nous resterait-il à qualifier cette probabilité. 30% de chances qu'un risque, quel qu'il soit, se produise, cela nous paraît-il acceptable ou inacceptable? Rassurant ou effrayant? Raisonnable ou délétère? Là encore, la réponse à ces questions ne peut être qu'éminemment personnelle. Voilà pourquoi il n'existe pas de vérité, pas de position juste ou bonne. Selon la manière dont nous hiérarchisons les valeurs et percevons les risques, une ligne de raisonnement finit par nous apparaître comme préférable aux autres. Nous arrêtons notre position et constatons que, malgré tous nos efforts de rigueur, elle aura toujours ses contradicteurs. Étude de cas. Je cherche à me forger une opinion sur la question de l'énergie nucléaire. Faut-il construire de nouvelles centrales ou bien, au contraire, fermer progressivement celles qui existent? Des arguments très rigoureux viennent à l'appui de chacune de ces positions. Du côté pro-nucléaire, on insistera notamment sur le fait qu'il s'agisse d'une énergie capable de produire en continu, sans polluer l'atmosphère et en émettant très peu de CO2. Du côté anti-nucléaire, on rappellera au contraire que cette énergie a déjà causé 3 accidents majeurs dans le monde, qu'elle produit des déchets dangereux pour des millénaires et qu'il devrait être possible de la remplacer progressivement par des énergies renouvelables. Tous ces arguments sont rigoureux. Dès lors, ce qui va décider de ma position, ce sont des considérations personnelles. Le risque d'un nouvel accident nucléaire, fût-il infime, me paraît-il acceptable. Le fait de gérer les déchets radioactifs en les enfouissant sous terre, fût-ce dans des complexes hautement sécurisés, me semble-t-il tolérable. L'hypothèse selon laquelle nous inventerons bientôt les technologies nécessaires pour passer au tout renouvelable, fût-elle incertaine, m'apparaît-elle comme raisonnable. Au fond, où se situe pour moi la priorité? Continuer à profiter d'une énergie décarbonée ou renoncer à exploiter une technologie dangereuse? Il est possible, en étant parfaitement honnête, de répondre à chacune de ces questions par l'affirmative comme par la négative. Décryptage. Comme pour toutes les questions controversées, il n'existe pas ici de bonne ou de mauvaise solution. Pas de position vraie ou fausse. Seulement une appréciation du préférable qui est propre à chacun d'entre nous et va déterminer la manière dont nous hiérarchisons entre eux les différents arguments. Cela ne signifie pas pour autant que tous les raisonnements se valent. Ils peuvent être plus ou moins solides selon qu'ils s'appuient exclusivement sur des arguments rigoureux ou qu'ils intègrent, au contraire, des éléments contestables, erronés, voire fallacieux. Sur un sujet controversé, ce qui est condamnable, ce n'est jamais la position que nous tenons, mais la manière que nous avons de l'argumenter. Or, comme nous le verrons plus loin, plus nos arguments sont fragiles et moins ils ont de chances de résister à la contradiction. Rechercher la rigueur n'est donc pas qu'une exigence éthique, c'est aussi et surtout une nécessité stratégique.